Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ce soir, Damien et Corentin reprennent les manettes de l'émission Mode d'emploi pour le compte de la Fondation Copernic, comme à notre habitude, tous les quatrièmes vendredis du mois. Claude sera à la technique pour nous accompagner. L'émission de ce soir est consacrée au financement participatif. Ce mode de financement est en plein essor. Les fonds collectés ont doublé entre 2014 et 2015, atteignant 300 millions d'euros. On verra aussi que presque 20 000 projets ont été financés, encore une fois, en France. On voit vraiment l'ampleur qui se propage de ce mode de financement. Mais comment fonctionne ce nouveau système? Quels sont les projets qui peuvent être portés? On verra qu'ils sont nombreux. On se posera aussi la question des origines du crowdfunding et surtout, quelles sont les motivations des différents acteurs de s'investir dans ce nouveau modèle. Pour discuter de ces questions, la Fondation Copernic reçoit deux invités. Florence de Maupé, coordinatrice générale de l'Association professionnelle de financement participatif France. Je n'énumérerai pas toutes les tâches, tout ce qui vous incombe, tellement c'est large. Donc ça va de la gestion administrative et en particulier la gestion du réseau, pour faire simple. Et au téléphone avec nous, Laure Vérag, cofondatrice d'Indosphère.
Amaury Blais, cofondateur de l'Indosphère, oui.
Et Amaury Blais.
Donc, président de l'Indosphère.
Eh bien, bienvenue. Donc, pour cette session, nos amis auditeurs, vous pouvez nous appeler pour intervenir au 01 40 05 06 10 à tout moment. Et vous pouvez aussi réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur Radio Fréquence Paris Pluriel ou comme d'habitude la podcaster sur le site de la Fondation Copernic.org.
Bonsoir à toutes et tous. Donc j'ai commencé par remercier nos invités. Donc merci Florence d'être présente. Merci Amaury, donc l'Indosphère, d'être au téléphone et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et du coup je vais commencer par poser une première question assez simple finalement. Quelle est la définition aujourd'hui de la finance ou du financement participatif? Alors je pose la question à Florence.
Oui. Alors, le financement participatif, en fait, c'est une collecte de fonds via une plateforme web et qui permet à un ensemble de contributeurs de financer directement et de manière traçable un projet identifié. Donc, ça permet vraiment de rassembler la foule. En anglais, crowdfunding, crowd pour la foule, funding pour le financement. Ça permet de rassembler la foule autour du financement d'un projet que la foule choisit directement et avec toute la transparence que ça implique sur une plateforme web.
Ok. Et depuis combien de temps quelques problèmes techniques, mais depuis combien de temps la finance participative existe-t-elle, et notamment en France?
Alors en soi, le financement participatif, ça remonte à des années finalement. Le principe en fait de solliciter un vaste réseau de contributeurs pour financer un projet. Ça remonte à la nuit des temps. On peut parler des tontines en Afrique, on peut parler du financement de la Statue de la Liberté par Auguste Bartholdi. Donc il y a des projets comme ça qui se sont fait financer par la foule depuis longtemps. Le principe du crowdfunding aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur la technologie du web, la plateforme internet, pour démultiplier l'impact. Et les premières plateformes de crowdfunding web, ça remonte en France, les premières plateformes sont apparues dans les années 2008.
Alors, du coup, j'en profite parce que le temps de notre invité par téléphone nous a un peu compté pour rebondir sur et de profiter de la présence d'Amaury au téléphone, donc qui est cofondateur et président de l'Indosphère, pour nous présenter un peu ses activités, sa plateforme, et on pourra évoquer un certain nombre de projets que vous portez.
Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir convié à cette interview ce soir. Alors, le financement participatif qu'a présenté brièvement Florence, se compose en trois différents univers. Il y a les plateformes qui proposent du don, c'est-à-dire vous êtes un particulier, vous souhaitez contribuer à un projet d'une association, un projet culturel ou un projet qui a du sens pour vous, vous pouvez donner votre argent pour que ce projet émerge en l'échange de pourquoi pas une place de concert s'il s'agit de financer un concert ou un don purement sans retour s'il s'agit de financer un projet caritatif par exemple. Ça c'est la première forme historique du financement participatif. Il y a également une deuxième forme qui s'appelle dont il s'agit de financer les entreprises en entrant au capital des entreprises. En fait, vous devenez actionnaire d'une entreprise. Ça c'est principalement pour financer les startups. Et il y a une forme un peu plus récente de financement participatif qui existe depuis octobre 2014. Il s'agit du prêt par les particuliers, du prêt rémunéré. Là où jusqu'à octobre 2014, seules les banques pouvaient prêter avec intérêt aux entreprises. Depuis, les particuliers peuvent mettre leur épargne à disposition des entreprises et récupérer un intérêt en retour. Nous, l'Endosphère, on existe depuis 2 ans maintenant, depuis tout juste 2 ans. On a financé 46 projets dans les énergies renouvelables. Ce sont principalement des projets éoliens ou des projets photovoltaïques. Pour un montant total cumulé d'un peu plus de 11 millions d'euros et de la part de 4500 contributeurs dont la grande majorité sont des personnes physiques, puisque jusqu'à il y a quelques semaines on avait financé 98% du montant depuis des particuliers vers des entreprises françaises qui développent ces projets d'énergie renouvelable.
Et du coup ils interviennent dans quel en mode don, en mode prêt, en mode investissement?
Sur l'Endosphère, c'est oui. Exclusivement du prêt aujourd'hui. On arrive à côté des financeurs classiques que sont les banques qui financent également ces projets d'énergie renouvelable, qui sont des projets très capitalistiques dans le sens où financer des éoliennes ou financer des champs de panneaux photovoltaïques, ça nécessite un capital très important. Les entreprises apportent du financement pour ces projets, les banques apportent également du financement pour ces projets, et il y a besoin d'une multitude de différents financements pour pouvoir faire émerger ces projets, et on fait partie de l'une de ces multitudes de financements sous la forme du prêt rémunéré. Par exemple, ce qu'on peut financer en ce moment, c'est le financement de tours d'éoliennes en bois. C'est la première tour d'éolienne en bois de France, qui est dans l'Orne, à Argentan précisément, et les particuliers peuvent contribuer à hauteur de, pour une collecte totale d'un million d'euros. Ils vont prêter l'argent et ils vont recevoir sur 4 ans, tous les trimestres, intérêts et capital du placement qu'ils ont fait pour cette entreprise du Nord qui développe des projets un peu partout en France et même ailleurs dans le monde.
D'accord. C'est du bois normand?
C'est pas du bois normand, c'est du bois qui vient principalement de France. Le gros avantage de créer des tours en bois, c'est d'abord un intérêt économique, puisque le bois coûte moins cher que l'acier. Également, il y a un gros intérêt qui est que le mât en bois peut être fabriqué en France par des entreprises françaises qui sont spécialisées dans ces métiers, et également ça permet de développer la filière bois en France qui souffre depuis quelques années. Ça permet de la relancer, donc c'est un projet ce type de projet est complètement vertueux d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental également, et puis c'est une nouveauté et on est tout à fait friands de ce type de projet, et les particuliers sont également friands de ce type de projet, puisque 10 jours après la mise en ligne de ce projet, on a déjà collecté plus de 800 000 euros.
Donc en fait, l'Endosphère vous propose une plateforme qui permet de se faire rencontrer des investisseurs d'un côté et en l'occurrence des projets éoliens de l'autre, c'est ça?
Et c'est exactement ça. Sur les particuliers viennent sur www.landosphere.com. Ils découvrent les projets qu'on leur présente. Ils découvrent les conditions de financement qui sont présentées, les entreprises qui portent ces projets. Vous avez quelques informations sur l'entreprise, notamment son chiffre d'affaires, son bénéfice, les derniers éléments comptables et financiers de l'entreprise pour savoir.
Vous faites une sélection.
Bien entendu, on fait une sélection. On fait une sélection de tous les projets parce que l'objectif sous cette forme de financement est de faire prendre un risque très mesuré aux particuliers. Les particuliers ne sont pas des professionnels du financement, en tout cas pas tous. Et on considère que pour que le financement participatif sous la forme du prêt perdure et prenne une dimension de plus en plus importante, ce que l'on souhaite bien entendu, il est nécessaire que les particuliers soient protégés et qu'on leur présente des projets de qualité. Depuis qu'on s'est lancé sur l'Endosphère, il n'y a eu aucun incident de paiement, c'est-à-dire que toutes les échéances de paiement et toutes les échéances de remboursement ont été honorées sans aucun retard ni défaut.
Et concrètement, enfin, c'est peut-être poser une question un peu innocente, mais le système de prêt, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, je peux donner de l'argent sur la plateforme sur le projet que vous citiez à Argentan, et après il y a une rémunération. Enfin, comment ça fonctionne?
Alors exactement. Vous vous inscrivez sur le site landosphere.com, vous créez votre compte et vous entrez quelques informations qui vous concernent. On va demander notamment votre pièce d'identité, on va vous demander un justificatif de domicile, quelques éléments pour vous identifier. Et suite à ça, vous pouvez créditer votre compte Landosphere et ensuite vous pouvez prêter au projet qui vous intéresse en ayant accepté les conditions, en ayant accepté les risques qui vous sont présentés sur les projets et vous pouvez mettre votre épargne dans l'économie réelle en pouvant bénéficier des retombées économiques des projets qui sont présentés sur la plateforme.
Et pour être peut-être un peu provocateur, mais ce type de placement existe par les banques, c'est-à-dire qu'il y a des placements où on peut mettre son argent en banque sur des projets. Or, je ne vais pas citer le livret développement durable qui ne porte pas bien son nom, mais il y a des sites comme ça, des placements qui existent. Quelle est la différence vraiment que vous apportez?
Alors le gros intérêt du financement participatif dans les énergies renouvelables, en tout cas, c'est qu'on permet aux citoyens de contribuer au financement des projets qui sont à côté de chez eux. Alors c'est pas un prérequis d'avoir un projet éolien à côté de chez soi pour y participer, mais ce qu'on propose sur de nombreux projets, c'est de bonifier le taux d'intérêt pour ceux qui habitent dans un périmètre géographique proche du projet. L'idée est de permettre aux citoyens de contribuer aux projets d'énergie renouvelable qui sont qui les entourent, pour que la transition énergétique soit l'effort d'un maximum de personnes. On permet d'impliquer financièrement les gens, on permet de leur faire bénéficier des retombées économiques des projets qui sont à côté de chez eux, dans cette logique de réappropriation de ces projets territoriaux.
Ah, du coup, si j'ai bien compris, vous êtes membre donc de l'association Finance Participative. Du coup, vu qu'on en est un peu au stade des présentations, Florence de Maupeou, si vous pouvez nous présenter l'association et son rôle auprès de ces acteurs du financement participatif.
Oui, donc Financement Participatif France, du coup, c'est l'association professionnelle des acteurs du crowdfunding. On existe depuis près de 4 ans maintenant, ce qui est relativement ancien étant donné la genèse du secteur. Et en fait, on rassemble 150 membres, dont 70 plateformes de crowdfunding, que ce soit en don, en prêt ou en investissement. Comme l'a dit Amaury, en fait, il y a une multitude de typologies de projets qui se financent sur les plateformes, et il y a une multitude de typologies de transactions qui existent aussi, que ce soit en don, avec ou sans contrepartie, en prêt rémunéré ou solidaire, en investissement en capital, en obligation. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de typologies d'acteurs et de financements. Et donc nous, on rassemble tous ces acteurs au sein de l'association, avec aussi l'écosystème du financement participatif. Et on a pour rôle, on a pour mission d'être la voix des acteurs du crowdfunding auprès notamment des pouvoirs publics et des régulateurs. Et donc c'est notamment Par exemple, ce qu'a mentionné Amaury, c'est que avant octobre 2014, le prêt rémunéré n'était pas possible en France. On a un monopole bancaire qui fait que si vous vouliez faire de prêt rémunéré auprès d'une entreprise, en fait, vous étiez un banquier, donc il vous fallait un agrément bancaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Via le crowdfunding, on peut devenir un banquier à sa façon. Et donc ça, c'est un travail de lobbying en fait qui a été mené par l'association avec les différents acteurs pour permettre aux particuliers d'avoir accès en fait à ces financements, de pouvoir être financeur et de pouvoir, et c'est ça la grosse valeur ajoutée aussi du crowdfunding, de pouvoir choisir où il met son argent, parce que vous disiez finalement les banques proposent des choses, oui il y a des fonds qui existent, mais on sait pas en fait comment est utilisé notre argent. Et donc là, le crowdfunding, c'est très transparent. Et on a un projet identifié, un porteur de projet qui porte ce projet. Alors, et on le connaît.
Peut-être donc, sur certaines banques, non? Comme la Nef, non?
Oui.
Enfin, je veux pas faire de concurrence
Non, la Nef est un bel exemple. Mais elles sont peu nombreuses.
C'est sûr.
Et du coup, les acteurs comme l'endosseur viennent vous voir et travaillent avec vous quelle est votre interaction avec des associations?
Oui, alors on est né des acteurs. Hein. Ce sont les acteurs qui se sont rassemblés il y a 4 ans avec le constat que le crowdfunding, c'était encore pas très bien connu, parce que on voyait un peu ce que c'était que le crowdfunding en don pour des projets culturels via par exemple My Major Company, qui est une des premières plateformes à s'être lancée. On connaissait un peu Kickstarter aux États-Unis, mais en France c'était encore assez flou, donc il y avait des vraies problématiques de pédagogie auprès du grand public et des vraies problématiques de régulation. Donc les acteurs se sont rassemblés pour pouvoir mener à bien ces missions, et aujourd'hui en fait on a petit à petit, on a quand même acquis une légitimité auprès des pouvoirs publics et des régulateurs. On est l'interlocuteur identifié pour faire remonter les problématiques. Et donc les plateformes qui se créent viennent nous voir pour adhérer et puis pour faire partie du mouvement, pour travailler de concert sur des propositions d'amélioration de la réglementation. Et puis on a aussi tout un aspect événementiel, promotion de la finance participative, dans cet esprit un peu de pédagogie auprès du grand public de façon générale partout en France.
Et du coup, Amaury, vous travaillez avec ces associations?
Nous, on travaille bien entendu avec notre association professionnelle, avec Financement Participatif France, dans cette idée de faire de la promotion de ces nouveaux modes de financement, dans l'idée également de faire du lobbying auprès des autorités pour leur faire connaître le travail que nous sommes en train de développer, et pour que ça se répande et pour que ça puisse se développer davantage, comme c'est le cas outre Atlantique et également outre Manche, dans une dimension beaucoup plus importante aujourd'hui qu'en France. Après ça, au niveau associatif, nous on finance avec notre mode de financement, on finance des entreprises, exclusivement des entreprises sur la plateforme Landosphère.
Vous avez des exemples d'actions de communication, de lobbying que vous portez sur ces sujets?
Oui, bien entendu. Aujourd'hui, on travaille avec notamment le ministère du développement durable et également avec Bercy. On va essayer de créer des tables rondes avec les différentes autorités et dans le but de promouvoir et dans le but de créer les conditions favorables pour que les énergies renouvelables aient un volet participatif. Ça a été le cas il y a quelques années au Danemark. Au Danemark, le gouvernement avait voulu que se développent très rapidement les énergies éoliennes, et pour ça, ils avaient donné des incitations et même des obligations légales des producteurs d'énergie éolienne à ouvrir le capital aux particuliers.
Allez-y.
C'est dans cette logique d'appropriation des projets de territoire et dans cette logique également d'implication d'un maximum de toute la population pour que ça se fasse dans la bonne entente et pour que tout le monde puisse bénéficier des retombées économiques de ce type de projet.
Un des exemples aussi des travaux qu'on peut mener au sein de l'association et qui concerne notamment l'endosphère parmi d'autres acteurs, c'est on a travaillé cette année à la mise en place d'un label qui s'appellerait Finance participative pour la croissance verte, donc label qu'on a réfléchi avec le ministère de l'Environnement. On espère qu'il verra le jour prochainement, mais voilà, c'est des actions qu'on peut mener, un label qui permette aux plateformes de labelliser les projets qui sont des projets d'énergie renouvelable selon un certain nombre de critères. Donc c'est ce type d'action qui permettent de valoriser le financement participatif et lui donner plus de visibilité aussi.
C'est d'autant plus important, si je me trompe pas, la loi de transition énergétique, vous parlez de croissance verte, qui a été adoptée en août 2015, indique des nouveaux dispositifs autour du financement participatif, et notamment sur l'action des collectivités, des territoires.
Alors effectivement, il y a différents volets. La loi sur la transition énergétique invite les développeurs d'énergie éolienne à solliciter les riverains des projets au financement. Probablement dans les prochains appels d'offres d'énergie renouvelable, il y aura les mentions de comment, à quoi doit ressembler le financement participatif pour que les développeurs puissent vendre leur énergie sur le territoire. Il y aura toutes les deux conditions qui seront fixées. Et également, depuis assez récemment, les collectivités peuvent entrer au capital des sociétés de production d'énergie renouvelable.
Avant de passer à la prochaine partie de notre émission, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Out of Time Men de la Mano Negra.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, donc l'émission Mode d'emploi de ce soir animée par la Fondation Copernic est consacrée au financement participatif. Je profite des quelques minutes encore de présence d'Amaury, donc de l'Endosphère, pour lui poser une question. C'était sur les actions concrètes que vous menez auprès des territoires, en tout cas pour déployer un peu ou vous faire connaître. On sait aujourd'hui qu'il y a un enjeu, vous parliez notamment de développement des énergies renouvelables, de contexte un peu local, de relocaliser l'économie. C'est le genre d'initiative, à mon avis, qui pourrait plaire à nos collectivités territoriales, à nos entreprises. Comment concrètement vous menez vos actions de promotion auprès des acteurs des territoires?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets éoliens, c'est des projets qui mettent assez longtemps à se développer sur les territoires. Ça peut aller jusqu'à même une dizaine d'années de rencontres avec les élus, de rencontres avec les populations pour leur expliquer, pour démocratiser ce type de projet d'infrastructure qui tend à se développer de plus en plus et qui va rester pendant assez longtemps sur le territoire, puisque des éoliennes qui sont installées ont pour vocation de rester au moins une vingtaine d'années sur les territoires. Alors il y a tout ce travail de concertation pour lequel nous, l'Endosphère, on peut apporter notre contribution pour aller expliquer le type de financement qu'on propose. L'objectif est étant de permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'y intéresser et de pouvoir contribuer s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent contribuer au projet qui est à côté de chez eux. Et après ça, il y a tout un effet de bouche à oreille sur les territoires qui se fait. Et ce sont des projets qui, en règle générale, mobilisent les populations. Et ce que l'on constate, c'est que les riverains des projets sont toujours assez satisfaits, même c'est eux qui font la promotion du financement participatif, c'est eux qui souvent demandent aux élus de faire passer le message qu'ils souhaiteraient que l'entreprise qui développe ce projet fasse appel au financement citoyen.
On disait en introduction que le financement participatif était en plein essor. Est-ce que vous sentez cet essor au cours depuis votre création, sur le nombre de participants, de projets qui se proposent à vous?
Ah oui, on sent un essor, on sent que ça suscite un engouement même beaucoup plus rapide qu'on l'imaginait. Le premier projet qu'on a lancé il y a deux ans avait un objectif de 40 000 euros. Je me rappelle que on a terminé les 40 000 euros le dernier jour. Et aujourd'hui, on lance des campagnes beaucoup plus ambitieuses. On a collecté pour certains projets plus d'un million d'euros. Le projet le plus ambitieux qu'on ait réussi à boucler, c'était 1 600 000 euros. Et là, on peut voir que sur la dernière opération pour les mains en bois dont je parlais tout à l'heure, on a collecté en 10 jours 825 000 euros. Donc on sent vraiment que les particuliers sont intéressés par le développement de ces énergies renouvelables sur leur territoire. Il y a un projet pour lequel on a collecté 65% du montant sur le territoire. 65% du montant collecté, c'est assez conséquent. On n'imaginait pas que les riverains du projet étaient attachés à ce point-là aux projets qui sont à côté de chez eux.
Et vous parlez d'énergie renouvelable. Finalement, vous avez cité que des exemples autour de l'éolien. Est-ce que est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres sources de production d'énergie qui se montrent, qui se créent, d'autres projets autour de ces énergies?
Oui, on a également présenté des projets dans le photovoltaïque, et on a présenté un projet dans l'éclairage public. Ça, c'est un projet qui était porté par une entreprise française qui est installée à côté de Bordeaux, qui développe une technologie qu'elle commercialise principalement en Afrique. Et il s'agit de lampadaires à LED qui ont des petits panneaux photovoltaïques au-dessus et qui emmagasinent l'énergie pendant toute la journée pour la restituer sous la forme de lumière le soir, et ça permet d'amener la lumière dans les petits villages qui n'ont pas de réseau électrique.
Ma question suivante serait sur, ou déjà, quelle est la taille de votre association et du coup de quoi vit-elle? Quel est le système de rémunération, le business model, si on parle en mots un peu plus économiques?
Nous, on se rémunère sur les emprunteurs, sur les entreprises qui empruntent sur la plateforme, et on prend une commission qui peut aller de 1,3% pour les campagnes les plus ambitieuses, jusqu'à 4% pour les campagnes d'un montant plus petit. C'est des conditions qui sont modulables en fonction pour être dans un équilibre financier, pour ne pas trop peser sur le projet et pouvoir développer notre entreprise.
On s'était promis de vous libérer vers 21h. Donc Amaury, on vous remercie beaucoup. Donc les gens qui sont intéressés par vos projets, votre démarche, donc votre site internet, c'est landosphere.com, hein, c'est ça?
Oui, landosphere, L-E-N-D-O-S-P-H-E-R, land comme prêté, et l'univers du prêt sur notre plateforme. Je vous remercie beaucoup de m'avoir convié ce soir.
Merci à vous et bonne fin de soirée.
Merci, très bonne soirée. Au revoir.
Alors, du coup, Florence, on va peut-être revenir un peu
aux origines
du financement participatif. Corentin précisait en introduction un montant en euros de ce que pouvait être le financement participatif. Vous avez parlé différents modes de financement participatif, pardon, entre le don, le prêt, l'investissement. Aujourd'hui, quelle est la part relative de chacun de ces systèmes, finalement?
Oui, alors le prêt a pris pas mal d'ampleur. Enfin, en fait, nous on publie un baromètre du crowdfunding. Le dernier concerne l'année 2015, et donc sur 300 millions d'euros collectés, tout type de plateforme confondue, il y a 196 millions qui concernent le prêt. Alors dans ces 196 millions de collectes, il y a quand même 130 millions qui sont du prêt à la consommation, et 60 millions qui sont du prêt aux entreprises, sachant que sur le prêt aux entreprises, du coup, en fait, en 2015, on C'est en fait c'est la collecte sur toute une année. On est parti de zéro puisque la réglementation, enfin quasiment de zéro parce que la réglementation a été mise en place en octobre 2014. Et donc sur l'année 2015, on a 60 millions d'euros de collecte. Donc c'est un des types de financement qui évidemment partant de quasi zéro a fortement augmenté au cours de l'année. Et après sur les autres types de financement en don, on est sur donc que ce soit du don sans contrepartie à des associations caritatives ou du don avec contrepartie qui peut concerner des projets de particuliers, d'associations ou d'entreprises. On est sur 50,2 millions d'euros et pareil pour l'investissement.
Et du coup, voilà, la réponse peut paraître peut-être simple, mais pour nos éditeurs peut-être moins. Quelle est la différence entre le prêt et l'investissement? Parce que du coup, on met une somme d'argent en jeu. On a éventuellement des dividendes ou non, des intérêts ou non.
Alors, la relation à l'entreprise est évidemment pas la même parce que sur le prêt, c'est du financement sur une durée très déterminée, mais vous n'êtes pas partie prenante dans l'entreprise. Alors que quand vous investissez, vous êtes actionnaire de l'entreprise, donc vous êtes vraiment partie prenante de l'entreprise. Vous êtes invité aux assemblées générales et donc ça change évidemment à la fois pour le porteur de projet. C'est un type de financement très différent. Et à la fois pour l'investisseur, le contributeur, ça va pas être la même relation à l'entreprise. Et donc par le prêt, il peut bénéficier d'intérêt sur son prêt. Tous les mois, il est remboursé avec intérêt. Sur l'investissement, il investit au capital d'une entreprise. Il peut bénéficier de défiscalisation sur son investissement si l'entreprise le permet, si c'est une PME éligible à la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune. Mais du coup, son investissement est beaucoup moins liquide. Enfin, il va devoir attendre au moins 5 ans pour pouvoir bénéficier de défiscalisation. Et donc, on est sur une typologie d'entreprise qui est aussi assez différente. L'investissement, ça concerne quand même plus les startups. L'investissement en capital, en tout cas, ça concerne plus des startups. Donc des entreprises qui sont en création, qui sont assez nouvelles. Ça peut aussi être des entreprises en développement, mais là où le prêt avec intérêt, ça concerne beaucoup plus des... On est sur des TPE-PME, mais qui ont généralement au moins 2 bilans comptables, au moins 2 ans d'ancienneté.
Okay. Le risque est différent entre quelqu'un qui donne un prêt qui, du coup, attend plus de retour sur investissement stable que sur l'investissement?
Oui, il y a plus de visibilité, en tout cas c'est plus affiché sur le prêt, la rentabilité, que sur l'investissement, on parie un peu plus sur l'avenir du développement de l'entreprise. Après, le prêt comme l'investissement restent des financements risqués pour le contributeur. Une entreprise peut faire faillite, peut avoir des retards de paiement de fournisseurs, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent expliquer qu'un prêteur va soit tarder à récupérer son capital et intérêts, soit ne pourra pas les récupérer dans le pire des cas. Et sur l'investissement, de la même manière, c'est un investissement risqué. En fait, on est sur des entreprises qui sont pas cotées. C'est des entreprises non cotées. Et donc, il y a assez peu de liquidités. Donc, le jour où l'investisseur veut vendre ses actions, ça va être compliqué de trouver acheteur parce que c'est pas très liquide. Et puis, bon, il y a toujours un risque de perte totale ou partielle de son investissement. Mais voilà, après, les entreprises, ce qu'on a vu avec l'endosphère, il y a quand même une forte sélection de la part des plateformes pour les projets qui sont financés via la plateforme. L'objectif est évidemment pas de mettre à risque les contributeurs, mais plutôt de démocratiser le financement et de leur donner accès à ce type de financement. Et il y a juste une précision, du coup, il y a quand même des garde-fous, notamment sur le prêt. Le prêteur est limité à... Alors aujourd'hui, il est limité à 2000 euros par projet. Donc il ne pourra jamais investir sur un projet, prêter sur un projet plus de 2000 euros. L'objectif étant qu'il diversifie au maximum ses prêts, enfin qu'il ait un portefeuille très diversifié de prêts et qu'il mette des petites sommes un peu partout pour s'assurer d'une rentabilité.
Juste pour bien comprendre, vous avez parlé de prêts à la consommation. C'est enfin juste un exemple de prêts à la consommation dans le financement participatif.
Y a un gros acteur en France qui s'appelle United Credit, qui s'appelait avant Prêt d'Union, qui est une plateforme de crédit à la consommation. Donc en fait, des particuliers qui ont besoin, ça peut être besoin d'un frigidaire ou peu importe, ou d'une voiture, mais pas pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, peuvent faire un prêt sur United Credit.
Okay.
Et pour le coup, United Credit est un acteur assez important. Ils ont collecté en 2015 137 millions d'euros, de mémoire. Mais ils ont un agrément bancaire. C'est un acteur avec un agrément bancaire. Et le prêteur vient prêter en fait un portefeuille de projets plus ou moins risqués. Donc il sait pas derrière qui est le projet auquel il, enfin qui est le porteur, l'emprunteur auquel il prête.
Et du coup, on voit que voilà la typologie de projets qui peuvent être portés par le financement participatif est vraiment très impressionnant. On voit du particulier à la grosse entreprise. Quels sont les autres types de grosses typologies de projets?
En termes de secteur.
En termes de secteur.
Il y a vraiment tout secteur. Il y a évidemment historiquement un nombre de projets assez important dans le secteur culturel et artistique. Les premières plateformes se sont lancées quand même beaucoup sur ces thématiques-là. Donc ça reste un vivier important de porteurs de projets. On a aussi beaucoup de projets solidaires. De plus en plus d'associations se tournent vers ce type de financement. Pour diversifier les sources de revenus. Donc pas mal de projets humanitaires, solidaires, économie sociale et solidaire. Et on a aujourd'hui ce qu'on voit aussi. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment des plateformes qui se spécialisent sur des projets, sur des thématiques très spécifiques. Donc on va vraiment avoir des projets très variés. Il y a des projets agricoles aussi, il y a des plateformes qui sont dédiées aux projets agricoles, il y a des plateformes qui sont dédiées à l'univers du vin, et il y a de plus en plus aussi de plateformes qui sont dédiées à l'immobilier. Il y a de plus en plus de projets immobiliers sur les plateformes de financement participatif.
Et du coup, votre association, elle a l'éventail de tous ces profils de plateformes ou enfin il n'y a pas de choix dans le choix des adhérents
enfin en tout cas la sectorisation de la plateforme fait pas partie des critères. D'accord. D'adhésion. Il faut juste respecter la réglementation en vigueur, ce qui est une évidence. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères mais assez facile à respecter pour toute plateforme honorable en tout cas.
Et toutes ces plateformes sont web ou il y a d'autres types de plateformes? Est-ce que tout passe par Internet? Est-ce que ma question est aussi, est-ce que Internet et sa démocratisation qui prend une ampleur depuis ces 10 dernières années vraiment très importante, en plus avec l'avènement du portable, est-ce que tout ça est un vecteur, un levier du crowdfunding?
Oui, alors évidemment c'est un levier. En tout cas, nous, tous les membres de l'association Financement Participatif France, c'est des plateformes web. Il y a d'autres moyens de faire du crowdfunding, hein, comme on disait en début, le financement de Tontine en Afrique, c'est une communauté qui se rassemble et qui met son épargne en commun au service d'un projet de l'une ou l'un d'entre eux. Le financement participatif aujourd'hui sur le web, ça permet en fait d'aller quand même beaucoup plus loin. Ça permet de démultiplier l'impact. Ça permet de toucher des communautés en fait parce qu'on a pas mal parlé de l'importance géographique d'un projet, de la proximité, de l'affection des contributeurs pour un projet près de chez soi. Mais ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin et de pas être forcément sur des communautés géographiques, mais sur des communautés de valeurs, d'intérêts. D'aller toucher ces communautés grâce au web, parce qu'on va faire du buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'on va solliciter tel ou tel blogueur pour relayer le message. Et donc ça peut faire effet boule de neige comme ça, bien au-delà d'une communauté qu'on n'aurait jamais atteint en fait sans le pouvoir d'Internet.
Et justement, en parlant de cette communauté, ça m'intéresse de savoir qui sont les investisseurs derrière. Est-ce qu'il y a vraiment toutes les type d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles qui investissent là-dedans, ou il y a quand même une sectorisation?
Alors, ça dépend évidemment beaucoup de la typologie de financement dont on parle. Sur des plateformes, sur le financement par le don, c'est extrêmement varié comme typologie de porteurs de projets, parce que les premiers contributeurs d'un projet qui va se faire financer sur une plateforme en don, ça va être la famille, ça va être les amis, ça va de 7 à 77 ans, tout type de catégories socio-professionnelles confondues. Donc là, on est sur des typologies de financeurs assez variées. Et sur le prêt, on est un peu moins. Enfin, en tout cas, le prêt rémunéré, on est un peu moins dans l'affect par rapport au financement en don ou en investissement, parce qu'il y a un intérêt derrière. Je dirais qu'en moyenne, le taux d'intérêt proposé sur les plateformes de prêt rémunéré, c'est de l'ordre de 8%. Donc, en fait, on est sur des investisseurs, des contributeurs un petit peu plus qualifiés qui vont avoir de l'épargne à mettre sur plusieurs projets et qui vont être conscients des risques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la moyenne d'âge de ces contributeurs, il y en a 34% qui ont entre 35 et 49 ans. Donc on reste sur une population, on est quand même sur une population relativement jeune. Il y en a 21% qui ont entre 25 et 34 ans. Donc ça reste, ça s'adresse à une population jeune par rapport à d'autres types de financement plus classiques auxquels on se sent moins. On se sent moins les cibles quand on a moins de 50 ans.
Voilà, on va passer à la deuxième pause musicale et on se retrouvera après pour conclure un peu cette émission.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de ce soir Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée au financement participatif. Du coup, moi j'avais une question, je m'imagine en tant que porteur de projet. Aujourd'hui j'ai un projet à monter, quelles sont les principales étapes pour moi à faire pour être sûr que ça se réalise?
Oui, alors un porteur de projet qui a un petit projet, qui a un projet à monter et qui a besoin de financement qui sont pas de l'ordre de moins de 40 000 euros par exemple, il pourra se tourner vers une plateforme de crowdfunding en don et c'est de plus en plus un réflexe en fait de la part des entrepreneurs parce que ça a plusieurs avantages. Ça permet, alors déjà ça, en fait ça ça permet d'accéder à des financements, évidemment, mais ça permet aussi aux porteurs de projets de tester son produit ou son service auprès d'une communauté. Et en fait, c'est une étude de marché pour le porteur de projet à moindre coût, finalement. Et parce que l'appétence des contributeurs à financer ou non son projet vont lui permettre de valider ou pas l'intérêt du projet, enfin du produit ou du service qu'il veut développer. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là et en fait faut vraiment que le porteur de projet le prenne comme tel, comme une campagne de communication et un test de validation ou non de son projet auprès d'une communauté. Donc ça c'est un des intérêts du crowdfunding pour un porteur de projet qui veut démarrer son activité. Ça lui permet de rassembler, évidemment, il va aller trouver ses premiers clients ou ses premiers fans si c'est un projet artistique auprès de cette communauté. Et s'il fait bien le travail, parce que c'est du travail de lancer une campagne de crowdfunding, notamment une campagne de crowdfunding en don, ça demande beaucoup de préparation en termes de communication. Il faut avoir des outils réseaux sociaux qui soient un peu développés. Il faut pas partir du néant. Donc ça s'anticipe évidemment énormément. Et donc si le travail est bien fait en amont, il peut accéder non seulement à des financements, mais à une communauté. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Un autre point qui est important, en fait, c'est que si la campagne est une réussite, derrière, c'est un effet de levier pour d'autres types de financement. Un porteur de projet qui a réussi à mobiliser 200 personnes à hauteur de 40 000 euros pour financer son produit, il va voir le banquier. Le banquier est beaucoup plus réceptif à supporter, à porter son projet et à lui accorder des financements. Ou je parle d'un banquier, ça peut être un partenaire, peu importe, mais ça donne beaucoup de crédibilité à un projet d'avoir mené une campagne de financement participatif réussie.
Est-ce qu'on a une visibilité sur le taux de succès des campagnes? Est-ce que ça marche? Ou est-ce que je veux lancer mon projet, est-ce que j'ai une chance de réussir ou...
Alors là, il n'y a pas de chance qui rentre dans
en ligne de compte, c'est du travail. Mmh. Mais en fait, on a sur le baromètre 2015 du coup qu'on a publié, on a calculé le taux de succès des projets sur les plateformes de en don, et il est de l'ordre de 61%. Donc tous les projets ne fonctionnent pas. Et il n'y a pas de miracle aussi. On voit qu'il y a des porteurs de projets qui lancent leur, enfin, qui donnent trois infos sur la plateforme et qui n'animent pas cette page de campagne de crowdfunding. Évidemment, ces projets, ça peut pas marcher. Donc, ça demande en effet beaucoup de travail, et c'est pas simplement en postant sur une plateforme de crowdfunding un projet qui se financera tout seul.
Sur la partie dont on n'a pas parlé, de la partie contrepartie.
Oui.
C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, ça se fait de plus en plus même. Finalement, les plateformes qui faisaient du don sans contrepartie s'orientent aussi vers du don avec contrepartie, parce que la contrepartie, alors, quand on parle de contrepartie, ça peut être tout et rien. Ça peut être une contrepartie très symbolique, de l'ordre de la reconnaissance. Par exemple, moi, j'avais contribué au financement d'un magazine qui s'appelle Social Terre. Et bah, la contrepartie que j'ai gagnée, c'est que j'avais mon nom dans le magazine, sur une page du magazine. C'est vraiment très symbolique. C'est de la reconnaissance. Donc, ça peut être ce type de contrepartie-là. Ça peut être des contreparties beaucoup moins symboliques, qui peuvent être finalement en fait de l'ordre du préachat ou de la prévente. Ça va être le produit ou le service que propose l'entreprise, l'entrepreneur qui va être donné en échange du financement. Donc on est sur des contreparties très variées, mais c'est un aspect important d'une campagne aussi. Enfin, quand je dis il faut préparer sa campagne, les contreparties, de la même manière, ça s'anticipe. Et il faut bien évaluer quelle contrepartie peut être donnée en échange de quel montant donné sur la plateforme. Et donc avoir des contreparties qui puissent être attractives pour des contributeurs. Et pour ça, les plateformes ont un rôle aussi, accompagnent les porteurs de projets pour définir des contreparties et aider le porteur de projet à évaluer si la contrepartie est pertinente par rapport au montant donné. Donc il y a des seuils. Voilà, je donne 10 euros, j'ai le droit à un merci sur le site internet de l'entreprise. Je donne 20 euros, j'ai une carte postale envoyée, et je donne 50 euros, je peux voilà, ça peut être vivre aussi, ça peut être des expériences, comment dire. On peut vivre un peu de l'expérience du porteur de projet aussi. Par exemple, ça se fait pas mal sur des projets agricoles où ça va être une journée à la ferme, ou ce type de contrepartie aussi.
J'avais vu sur les projets artistiques, assister à une séance d'enregistrement de l'album, faire une voix off sur un chœur, des choses comme ça.
Ouais, mais du coup, c'est vraiment important de réfléchir ces contreparties, parce que voilà, ça peut être une source d'attractivité vraiment importante.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vos membres de l'association devaient respecter la réglementation. Du coup, ça me pose dans le temps qui nous reste deux questions. C'est aujourd'hui, quelle est la réglementation un peu en vigueur autour de ce sujet du financement participatif? Et surtout, je fais un lien, enfin en tout cas il me semble, avec ce que disait Corentin tout à l'heure sur les plateformes internet. Aujourd'hui, j'imagine que vous voyez venir des plateformes non françaises, en tout cas on peut aussi utiliser une plateforme américaine, chinoise, pour voilà. Donc quelle est un peu la réglementation, la régulation autour de ces enjeux aujourd'hui?
Alors, on est précurseur en France de la réglementation sur le crowdfunding. On en est très fiers, mais alors on a une réglementation qui est quand même de plus en plus stricte. En fait, il y a donc les plateformes qui font de l'investissement, que ce soit de l'investissement en capital ou de l'investissement en obligations, ou les plateformes qui proposent des mini-bons, qui sont une sorte de prêt, doivent avoir le statut de conseiller en investissement participatif. Donc elles ont un rôle de conseil. C'est un statut qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. Et donc ces plateformes, un porteur de projet qui souhaite investir au capital d'une entreprise, qui va sur ces plateformes, il peut pas le faire en deux clics. La réglementation exige que la plateforme s'assure que le contributeur, que l'investisseur, ait bien compris les risques qu'il prenait. Donc c'est des sites internet d'accès progressif où on va pas avoir toute l'information sur le projet simplement en allant sur la plateforme. Il va falloir s'enregistrer, donner un certain nombre d'informations sur sur soi en tant qu'investisseur, carte d'identité, ce type de choses. Et ensuite, une fois qu'on aura spécifié, qu'on a bien compris les risques, on pourra aller investir dans le capital d'une entreprise. Donc il y a cette réglementation-là pour les plateformes d'investissement. Mmh. Et il y a pour les plateformes qui font du prêt, du coup, on a créé un statut spécifique qui fait une brèche du coup dans le monopole bancaire et qui permet le prêt rémunéré, qui est le statut d'intermédiaire en financement participatif, qui est régulé par l'autorité de contrôle prudentiel. Et les plateformes qui font du don depuis quelques semaines, même à peine, doivent aussi avoir ce statut d'intermédiaire en financement participatif. Ce qui permet en fait aux plateformes, ce qui oblige les plateformes à un certain contrôle des, à la fois des porteurs de projets et des contributeurs, notamment dans tout ce qui est lutte anti-blanchiment, lutte anti-terrorisme. Donc en France, les acteurs sont très régulés par les autorités de régulation, par TRACFIN, qui est la cellule de contrôle sur le blanchiment et le terrorisme. Voilà un peu pour poser le cadre, mais qui n'est pas simple. Du coup, pour revenir à la question des acteurs étrangers, en fait, c'est compliqué pour un acteur, une plateforme étrangère de venir en France, étant donné la régulation qu'on a. Évidemment, il y a des porteurs de projets qui vont sur d'autres plateformes, notamment des grosses plateformes américaines, parce qu'elles sont plus internationales, donc notamment un porteur de projet qui a un projet qui a vocation à dépasser les frontières de l'Hexagone, il aura intérêt finalement à aller sur une plateforme américaine s'il veut conquérir le marché américain. Après, on remarque quand même, il y a assez peu de concurrence entre plateformes d'un pays à l'autre et on est quand même dans cette proximité où un porteur de projet va aller sur une plateforme française et un contributeur va aller pas plus sur une plateforme française aussi. Mais
du coup, on arrive bientôt au terme de cette émission. Et voilà, quelles sont les perspectives du crowdfunding? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Quels sont les travers qu'il faut éviter?
Alors, on est sur des montants qui doublent depuis le début, le lancement des plateformes. Les montants de collecte doublent, donc je souhaite évidemment au crowdfunding que les montants de collecte continuent à doubler, que le nombre des contributeurs aussi continue d'augmenter. On a 2,3 millions de contributeurs sur des plateformes françaises. Du coup, c'est bien, mais il faut qu'on fasse plus de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne et qu'on ait plus de contributeurs sur des projets de l'économie réelle. En termes d'enjeux d'enjeux sur le secteur du financement participatif, évidemment la régulation en est un. On a une réglementation beaucoup plus stricte en France que dans d'autres pays, et donc c'est un des enjeux du financement participatif, c'est de faire attention à ce que notre réglementation ne tue pas le secteur, parce que des plateformes étrangères auront moins de contraintes réglementaires à se développer et seront moins bridées que les plateformes françaises ne peuvent l'être.
Ok, merci beaucoup pour tous ces échanges. L'émission touche à sa fin, donc je voulais encore une fois vous remercier, Florence de Maupilly.
Merci à vous.
L'association Finance Participative. Je tenais aussi à remercier Amaury de l'Endosphère qui a participé à la première partie de l'émission. Remercier Claude qui ce soir a assuré la technique. Donc vous pourrez écouter l'émission mercredi prochain de 7h30 à 8h30 ou la podcaster sur le site de la Fondation Copernic. On se retrouve l'année prochaine, le vendredi 27 janvier, autour d'un sujet qui fait débat autant à gauche qu'à droite, le revenu universel et sa redistribution. Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée, merci.
Merci, au revoir.
Morena, jovem e linda, a garota de Ipanema passa, e quando ela passa, todo mundo olha e diz, ah. Quando ela anda, é como um samba, que move gostoso e balança tão bem.